Cette émission est une présentation Intersport Productions.
94.5 Unique FM, les micros sont ouverts.
Bienvenue dans le vestiaire.
Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
Malgré que ce ne fut pas parfait pour les Sénateurs, on a trouvé une façon de l'emporter. Un match où les unités spéciales ont eu leur mot à dire. Malgré l'imperfection, les Sénateurs retrouvent une belle séquence, une première cette saison, 4 de suite. On en parle aujourd'hui dans votre vestiaire.
Voici notre promesse.
Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
Au 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
Excellent début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue dans la célébration du sport dans la capitale. La meilleure émission sportive francophone. On s'appelle dans le vestiaire. Vous nous écoutez en direct maintenant, 94.5 Unique FM, l'application mobile. Et également sur leuniquefm.ca. Sinon, en différé, version podcast, Spotify et Apple Podcasts. Je suis énergisé du fait que l'équipe nous a démontré une autre façon de l'emporter. Les unités spéciales, hier, ont eu leur mot à dire. Quelle belle soirée pour les partisans qui étaient là, plus de 15 000 à peine. Mais en plus, ceux qui nous ont écoutés au hockey, Heidi Robinson des Sénateurs. On a eu du fun, des commentaires intéressants après la rencontre. En réaction à cette soirée où Brady Tkachuk en a marqué 1, 2, 3, où notre ami Claude Giroux également a bien paré avec 3 points, 1 but, 2 passes. Un but en désavantage numérique, pourquoi pas? Des avantages numériques parfaits. L'avantage numérique qui marque 2 en 5. Forsberg a un pourcentage de 925. Malgré que ce ne fut pas parfait, on le reconnaît. Il n'y en a pas de problème parce qu'il n'y a rien de parfait dans ce beau monde. Mais, tout comme son équipe devant lui, on a trouvé une façon de colmater les brèches et de se redresser. 40 lancés qu'on a accordés, on jouait avec un défenseur en moins. Ne l'oublions pas. La tâche était amplifiée, pas facile, pas commode, et pourtant, les Sénateurs l'emportent. Chapeau, 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 solide sortie, tout le monde est content, moi aussi d'ailleurs. On était à l'entraînement aujourd'hui qui était optionnel. Il n'y a pas nécessairement de grosses nouvelles, sinon que Jake Sanderson, lui, se retrouve encore une fois sur la voie d'évitement, mais était sur la glace et disait lui-même que c'est plaisant justement de voir, de pouvoir prendre des répétitions avec ses coéquipiers. Ça pointe dans la bonne direction, puis on espère évidemment un retour plus tôt que tard. À part de ça, ben écoutez, je pense que l'équipe était de très de bonne humeur. Il y en a un cependant qui a retenu l'attention, et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Je dis ça comme ça. On ne veut pas faire de controverse. On a gagné. C'est une quatrième de suite, mesdames, messieurs. On n'a pas vu ça cette année. Alors, il n'y a personne qui va commencer à chialer pour son sort. Mais reste que, hier, il y a Mark Kastrlik qu'on a aperçu après la rencontre, à prendre des répétitions. Seul. Puis on se demandait, ben voyons donc, pourquoi? Puis envoyons donc. Puis questionné à ce sujet, Kastrlik a dit, écoute, il n'y a pas de controverse là-dedans. J'ai déjà vu ça ailleurs, puis j'ai dit que vu que j'avais pas eu beaucoup de temps de glace, ben écoute donc, j'ai décidé d'aller sur la glace, puis de me dégourdir les jambes, puis de, je sais pas, juste d'être là. Et encore une fois, il prenait ça, là, gars, écoute, c'est bien correct, il y en a pas de controverse. Mais reste que, c'est la nouvelle façon de faire pour les Sénateurs, puis je pense que c'est un Jacques Martin qui a expliqué justement. Sans vouloir, encore une fois, être pointilleux sur la question, mais il dit, écoute, si on décide qu'il y a X joueurs qui sont capables de nous en donner, ben on va y aller avec eux autres, puis les autres, ben devront peut-être trouver une façon d'améliorer leur jeu pour nous permettre de compter sur eux sur le prochain match. D'ailleurs, pourquoi on ne fait pas ça tout de suite? Ouais, donc. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, on va entendre une petite shot de Jacques Martin qui était justement en point de presse après cette pas cette performance, mais plutôt cet entraînement de ce matin qui était optionnel. Sans plus tarder, on écoute le coach. On vous revient pour la suite des choses.
What do you, if Mark Kastelic was on the ice after the game last night, I'm not sure if you noticed that. Have you seen a player do that, and what message does that send to you?
Well, I don't think, I think when a player doesn't get a lot of ice time, usually he'll do some extra work in the gym, and I think probably instead of going in the gym, I think he went on the ice to skate, so I don't think it, it doesn't send a message or not. I think, I play the people that I feel that are going to help us win on any given night, and last night we had a shorter bench, and we found a way to win last night. To me, like, our specialty teams won the game. We got two power play goals, one shorthanded goal. We play with 5D, and we had a good meeting this morning and addressed some of the issues, and we need to be better tomorrow night.
What does he have to do, Jacques, to be a more effective player and a player who you feel you can use in all situations?
Well, I think, the other games, I think he's played a fair amount, I think, like, against Toronto and so on. So, I think, he's a big body and has pretty good puck control. And, just got to keep working his game and, trying to get better. And sometimes some nights it's going to go. Some other nights it's not going to be as good. I think, I look at last night's game against Toronto, our line of Craig, Pinto, and Tarasenko were our best line. Last night they struggled. That's part of the game. Other people picked up the game. I mean, as a coach, you're trying to use the people that are going and going to help you to win. And, I think you're going to get that sometime. And, that's why we work at getting better every day.
Your PK is ranked fourth in the league in the last dozen games here. What's being done differently for the success?
Well, I think they did a good job. I think they're better as far as taking away some seams and, probably playing tighter. I think, I think they're developing some chemistry too. I think that's a factor, and getting some saves. So there's a lot of factors that come in into the PK and power play.
Les 40 lancés vous avez alloués hier, est-ce que c'était peut-être un relâchement au niveau de la structure ou simplement pour donner crédit à l'adversaire?
Mais je pense que tu regardes l'absence de deux de probablement de nos top four de défense. On a passé beaucoup plus de temps dans notre zone hier qu'en général. Donc, je pense que un des éléments qui, dans les 10 dernières parties, qui nous a vraiment aidés, était notre jeu en zone offensive, notre contrôle de la rondelle en zone offensive. On n'a pas eu autant hier. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'améliorer, puis essayer d'améliorer, disons, aussi nos sorties de zone.
Ben, sans plus tarder, on se tourne vers le téléphone pour ouvrir les portes du vestiaire. On va parler du match d'hier. Brillante victoire, on va l'appeler ainsi, pour les Sénateurs, 6-3 contre les Blue Jackets. Il est avec nous pour la description de cette rencontre au hockey. Heidi Robinson des Sénateurs. Luc Chénier, comment vas-tu?
Salut Nick, ça va très bien, il fait beau.
Oui, c'est une bonne affaire ça, mais écoute, avant de parler du match d'hier, encore une fois, faut rappeler la quatrième victoire de suite des Sénateurs,
oui.
Faut revenir sur un autre sujet qui revient à l'actualité, Morgan Riley, je pensais que c'était derrière nous, non, on lui s'en va en appel de cette décision de suspension de 5 matchs, ta réaction à ça?
Je le comprends un peu, la raison pourquoi je le comprends, c'est beaucoup d'argent, lui, il va probablement... il veut tenter de sauver un peu de fric là, parce que, écoute, c'est on l'a montré hier à l'écran, là, c'est 195 000 $ qu'il va perdre avec ça. Il prend une chance, veut absolument tenter de faire réduire cette suspension-là parce que il va réduire également le montant. Moi, je crois pas qu'on va réduire la suspension. La raison, c'est qu'on l'a pas fait avec David Perron. Puis c'est un coup qui ressemblait beaucoup à celui de Perron, sauf que le contexte qu'on l'a vu n'était pas le même. C'était pas dans le feu de l'action, c'était pas un coup sur un coéquipier, parce qu'on le sait, Perron lui a répliqué un coup de bâton qu'il n'avait pas vu, il a juste vu son joueur étendu sur la glace et s'en est pris à Zoub. C'était même pas Zoub qui l'avait frappé. Mais là, c'est vraiment sans dire quelque chose de écoute.
C'était prémédité, là. Je m'excuse.
C'est un peu prémédité, oui. C'est un peu prémédité parce que tu t'en vas dans le coin et automatique, tu lui mets ton bâton au visage. Je pense pas, lui, qui. C'est pas parce que ça a dégénéré après ça, puis là, il y a eu des coups qui se sont donnés. Lui, il s'en allait vraiment. Puis j'espère que la Ligue nationale va tenir son bout. Non pas seulement la Ligue nationale, mais les gens qui s'occupent justement de l'arbitrage et de dire non, ça passe pas. C'est cinq matchs et c'est cinq matchs que ça va demeurer.
Pas seulement ça, l'association des joueurs a son mot à dire là-dedans. Je veux dire, t'essayes de protéger. Je comprends que juridiquement parlant, t'essayes de protéger le joueur puis d'alléger justement ce fardeau-là monétaire. Mais de l'autre côté, vous devez vous protéger entre vous autres.
Ben, là, c'est un peu un conflit d'intérêt.
Ouais.
C'est un peu un conflit d'intérêt parce que tu essaies de protéger ton joueur qui est coupable, puis tu dois protéger la victime également. C'est pour ça que des fois j'ai de la difficulté à voir ça tant que c'est l'association des joueurs qui va prendre soin. C'est à un certain moment donné, ils sont tous membres de la même association. Moi, j'appelle ça du respect. C'est ça qu'on manque. Ouais. En ce moment, dans la Ligue nationale, c'est on n'a pas de respect entre chaque joueur. Tout le monde est une petite PME. Ben, petite PME, il faut le dire vite. Là. Écoute, c'est des business. Puis on travaille, chacun travaille pour sa business à lui. Mais quand je vois, par contre, l'association des joueurs qui s'en mêle, et là, admettons qu'on réduit la suspension à trois matchs. OK, tu l'aurais dit à trois matchs, mais celui qui a été la victime dans ça, Riley Craig, lui, tu fais quoi, là? Tu ne l'aides pas, là?
Ouais, tu l'aides pas. Je pense pas qu'il veut demander de l'aide à ce niveau-là.
Non, mais
je pense
qu'est-ce que je veux dire?
Non, mais
qu'est-ce que je veux dire, c'est
t'envoies un message pour dire, gars, les boys, c'est correct, là, mais je veux dire, qu'on se tape sa gueule de même, là, tu viens de le dire. Tout le monde
vaut
son pesant d'or. Faut arrêter de se taper sa gueule, puis faut se protéger entre nous autres. Fait qu'on peut-tu traverser, mettre une ligne, puis ne pas la traverser? T'as-tu aimé la réaction de Ridley Gregg hier, ce qu'il disait après le match, qu'on a entendu d'ailleurs au hockey Heidi Robinson des Sénateurs? Écoute, il était un gars qui, un peu à l'image de ce qu'on décrit de lui, ben ben simple, puis voulait pas ajouter de l'huile sur le feu. Là.
Non, lui, probablement qu'on lui a dit le matin, écoute, t'as pas besoin de rajouter des commentaires, tiens ça, comme ça, c'est parfait. On a parlé de sa réaction, par contre, quand il touchait à la rondelle dans le match, ça a été bien fait. C'est un joueur quand même, sans dire une super vedette. C'est un gars qui, à tous les matchs, se donne pour l'organisation des Sénateurs d'Ottawa. Alors, c'est un gars honnête et je pense qu'on a reconnu également. Tu sais, c'était pas... je reviens encore. Moi, je suis persuadé que le geste a été fait en fonction des spectateurs et non pas en fonction des joueurs des Maple Leafs.
Il l'a dit un peu dans ce sens-là. Tu dis que c'est pas une super vedette, mais je vais te dire une affaire. C'est le genre de gars qui se fait adopter par son marché assez rapidement.
Ben oui.
Puis, les fans tombent en amour rapidement avec un joueur intense de même. Puis c'est un beau regard qu'on a fait, un beau salut. Comme tu l'as dit, là, touché à la rondelle en premier, puis on a salué évidemment son effort. Alors, chapeau pour lui.
C'est des joueurs, Nick, que quand tu veux gagner des séries éliminatoires, quand tu veux gagner des coupes, c'est ces joueurs-là qui deviennent un peu indispensables aussi.
C'est pas le même genre de match qu'on a vu de la performance des Sénateurs que le match précédent contre les Maple Leafs. On a alloué d'ailleurs 40 lancés. Il te manque un défenseur. Tu agis à 5. Le coach a envoyé des messages, mais je pense que ce qui ressortait de ce qu'il disait ce matin, et on doit l'admettre, ça a été une rencontre où les unités spéciales ont fait la différence. Désavantage numérique qui a été parfait, puis en plus, marque un
but. On a marqué.
L'avantage numérique qui en marque 2/5. À ce niveau-là, on peut pas maugréer sur ce qu'on a vu de la part des Sénateurs. Là.
Et on a refusé un autre but en désavantage numérique, celui de Joseph également. Alors oui, ça a été un bon match, moi je pense. La seule... Puis tu dois aussi regarder le positif. Tu dois regarder le positif dans ces matchs-là parce que t'as pas le choix, étant donné la saison qu'on a connue jusqu'à présent. Là, on est dans une bonne passe. Souviens-toi, il y a un mois et demi, il y a beaucoup de gens qui tapaient sur le clou des Sénateurs. Maintenant, c'est le contraire parce que là, on gagne. Oui, ça n'a pas été un match parfait parce qu'à 5 contre 5, on a quand même donné des chances. On a été capable d'amener plusieurs rondelles vers le gardien.
Mais à un certain niveau, même, je te dirais, en deuxième période, là, on a revu les Sénateurs du début de la saison qui commettaient gaffe après gaffe, qui commençaient à paniquer dans le territoire défensif. À un moment donné, on l'a vu, cette affaire-là.
Oui. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a été capable de briser ce momentum qu'on avait du côté des Blue Jackets. Parce que, tu sais, en entrée, hier, on s'est dit, on doit connaître une bonne première période, on doit marquer les premiers. Blue Jackets ont marqué les premiers et la première période a été contrôlée. Même si on a marqué des trois buts en première, ça a été contrôlé par les Blue Jackets. Mais par contre, on a été capable de briser ce momentum qu'on n'a pas été capable de faire contre d'autres formations. Souviens-toi le match contre les Rangers de New York. C'était 2-0 pour les Sénateurs et on a perdu le match. Fait que, c'est ça, ça te donne un message. Ça te dit que tu es en train de progresser en ce moment. Il n'y aura pas de parfait. C'est très rare des matchs parfaits là, pour n'importe quelle équipe. Mais quand tu es capable de remonter, parce qu'il ne faut pas oublier, jusqu'à un certain moment donné, il y avait seulement qu'un but d'écart entre les deux formations et on a été capable de marquer pour les Sénateurs. Et en plus, et tu l'as bien dit, jouant, ça paraît pas gros, là, mais quand tu joues seulement qu'à 5 défenseurs pendant tout le match, ça peut arriver en fin de deuxième, fin de troisième, mais là, pendant tout le match, tu dois évoluer à 5 défenseurs. On a quand même connu une bonne soirée chez les Sénateurs.
Ouais, on va revenir sur l'apport du défenseur Thomas Chabot qui, encore une fois, dans des circonstances comme celle-là, a démontré qu'il était pratiquement indispensable pour ce club-là. Près de 30 minutes, c'est 28 minutes. Ouais. Il a dit après le match, on l'a entendu, écoute, on se plaindra pas du temps d'utilisation. Mais reste que, comme tu l'avais expliqué, en passant une certaine limite, le gars s'expose à de la fatigue, pas seulement physique, mais mentale, qui expose à des erreurs, qui expose également à des blessures.
À des blessures. Oui, tu as parfaitement raison. Oui, tu as parfaitement raison. Puis, c'est un gars comme Thomas Chabot, Sandstrom, qui n'était pas dans le match, mais c'est des gars qui sont capables d'en manger des minutes. On est habitué à jouer beaucoup de minutes. Mais quand tu demandes après ça à un Brandstrom de le faire, on l'a vu, ça a été un peu plus difficile pour Brandstrom à certains moments donnés dans le match parce qu'il a pris de mauvaises décisions avec la rondelle. Mais c'est ces joueurs-là qui deviennent peut-être hypothéqués un peu et que ça devient un peu dangereux de les voir également avec autant de temps de glace. Mais je pense qu'on s'est bien défendu du côté des Sénateurs, de la défensive également. Puis je regarde le travail de Forsberg. Il a été très bon en troisième. Par contre, encore une fois, il a laissé entrer deux buts qu'il se devait de stopper. Et ça, c'est pas pire quand tu gagnes, mais c'est tout dépendamment dans la période du match que tu donnes ces deux buts-là. Des fois, c'est ça qui peut faire la différence entre une victoire et également une défaite.
Oui, tout à fait. C'est le fun de voir Brady Tkachuk marquer pas un, pas deux, mais trois buts. Le beau tour du chapeau, des choses qu'on ne voit que très rarement dans l'univers des Sénateurs dernièrement. On parle d'un capitaine qui a pris la charge. Et ça faisait longtemps qu'on voulait voir les joueurs de pointe, justement, prendre la charge. Parle-moi de la performance du capitaine hier.
Écoute, il a été très bon. Quand il joue de cette façon-là, Brady Tkachuk, il est très important parce que c'est un gars qui est capable d'aller au filet. C'est un gars qui est capable de prendre sa place justement devant le gardien adverse. Il est très bon pour vraiment la protection de rondelles. Ça fait une grosse différence quand on peut voir un gars comme Brady Tkachuk travailler. Et surtout, il gagne ses batailles. Et ça, quand tu gagnes tes batailles, ça te permet de contrôler la rondelle, ça te permet de continuer à attaquer. Et on l'a bien vu, là, parce que sur un de ses buts, même, il a pris un deuxième tir. C'est un retour de son lancer qu'il a pris et qui a fait en sorte que cette rondelle-là s'est ramenée derrière le gardien.
Si on parlait d'un autre leader, puis un peu sous le radar, parce qu'il y a eu la performance du capitaine, mais Claude Giroux, qui, dans l'histoire, à moins de me tromper, là, depuis sa venue avec les Sénateurs, est le troisième à produire le plus de points derrière Norris, et si je me trompe pas, Heatley, il n'y a pas si longtemps. Et c'est juste pour prouver que le gars est dans une classe à part, on va l'admettre, puis du début à la fin, le gars a toujours crié présent. Encore une fois, une grosse soirée pour Claude Giroux, là.
Écoute, Claude Giroux, là, lui aurait pu arriver puis dire, OK, parfait, j'ai tenté ma chance avec les Panthers de la Floride pour gagner la Coupe Stanley. Ça n'a pas fonctionné. Je m'en retourne à la maison. Je vais faire mes 3 ans avec les Sénateurs. Je vais prendre ma retraite. Je vais aller finir ma carrière, m'assurer de pas avoir de blessure majeure. Non, c'est le contraire. Claude, il veut gagner. Claude, il se présente à tous les soirs. C'est un compétiteur né, ce gars-là. C'est un gars qui est un leader également. Et on le voit dans son jeu. Combien de fois il fait des jeux sur la patinoire, là, c'est incroyable comment il est capable de repérer justement ses coéquipiers. Puis écoute, moi, si je suis sénateur, j'essaie de le signer pour encore quelques saisons parce que dans la situation où on est en ce moment, ça va te prendre des vétérans et ça te prend un vétéran comme Claude Giroux également.
Est-ce que tu as aimé ou tu as noté une certaine amélioration dans le jeu de Tim Stützle? Avant le match d'hier, on parlait d'un gars qui n'aimait pas lui-même sa performance. Jacques Martin avait demandé qu'il simplifie justement et de laisser le match venir à lui. Comment t'as trouvé, comment il s'est débrouillé hier?
Ben, moi, je trouve qu'il donne beaucoup moins de revirements dans le match. C'est un gars qui commence à être un peu plus responsable défensivement. C'est ce qu'on doit voir de Tim Stützle. Et avec le fait qu'il garde plus la rondelle ou qu'il la redonne pas, c'est souvent des chances qu'il tentait, des passes soulevées, des mauvais jeux. Dans le fond, c'est des erreurs simplement mentales qu'on fait parce que il a du talent. Stützle, il est capable de tout faire sur la patinoire. Par contre, un peu comme Jacques l'a dit, tu dois laisser le match s'amener à toi. Et tant qu'on dit ça, c'est que tu tentes pas de provoquer des choses. Si l'ouverture se crée devant toi, prends l'ouverture. Si elle n'est pas là, simplement mets la rondelle soit profondément ou distribue la rondelle à ton coéquipier et on va continuer le jeu. Et on le voit en ce moment. Tim Stützle, ben, je vais aller jusqu'au point de dire, il commence à apprendre à jouer au hockey. Il commence à être un joueur de la Ligue nationale parce qu'il est plus responsable et ça, ça va l'aider dans l'avenir, mais ça va également non pas dire, OK, maintenant, Tim Stützle va jouer défensif, va avoir moins de points à la fin de la saison. Moi, je pense pas. C'est qu'en bien jouant défensivement, il va également se procurer des ouvertures et surtout avoir la chance de quand même marquer des buts pour les Sénateurs.
Tu l'avais bien noté hier à part de ça, puis c'était à point. Alors, une bonne défensive. Guy Boucher avait dit ça à un moment donné. Tu joues bien défensivement, ça va te créer des offensives, des chances de marquer.
C'est pas compliqué, Nick. Regarde le but de Tkachuk. C'est lui qui vient couper la passe dans l'enclave, dans son territoire, intercepte la rondelle, s'amène 2-1, prend l'option du tir, son retour lui tombe directement sur son bâton et il marque un but. C'est tout simplement un bon jeu défensif qui a amené cette séquence-là et c'est ça que Tim Stützle doit faire. Et je suis persuadé, moi, que Jacques Martin, aujourd'hui, ou va le faire, va lui montrer la séquence en disant, regarde, là, un jeu défensif, amener un point, un but.
Après la rencontre, on a vu un gars prendre des répétitions seul. Mark Kastrlik, qui a joué pour 4,46. On l'a vu pratiquement pour rien en troisième période. Ce matin, il a dit qu'il n'y avait aucun message qu'il envoyait. Il a vu des joueurs qui n'avaient pas eu nécessairement eu beaucoup de répétitions, ben, s'embarquer sur la glace. Il avait pris des exemples que je nommerai pas là, mais en tout cas, pas nécessairement à l'interne, à l'extérieur. Alors, c'est pas pour lui une chose qui sort de l'ordinaire. Mais Jacques Martin lui-même, pas dire qu'il s'est enflammé aujourd'hui, mais disant qu'écoutez, on va envoyer les meilleurs qui vont nous donner une chance de l'emporter. Puis hier, on a senti que c'était nos joueurs, nos leaders. Puis
nos trois premiers trios.
Ben, c'est ça. Puis il a parlé du troisième trio dans le match précédent qui a été sublime. Il dit qu'ils ont un peu plus de misère dans le match. Bref, tout ça pour dire qu'il mettait les choses en perspective. Mais on sent définitivement que Jacques Martin commence à prendre une poigne sur ce vestiaire-là puis passer ses messages. Et là, ben, il commence à taper du poing, là.
Ben, il doit le faire, hein. C'est un peu pourquoi qu'on a amené Jacques Martin, parce que il y avait avec DJ Smith, l'ancien entraîneur des Sénateurs, et on doit le faire. Et écoute, moi, j'ai rien contre ça. Si le gars décide qu'il n'a pas eu assez de glace, il décide parce que j'ai été surpris. Moi, je pensais que c'était un joueur blessé qui était qui s'était amené sur la patinoire, mais là, tu me dis que c'est du côté de Kastrlik. Je me dis, écoute, si le gars voulait parce qu'il a pas fait, il a pas fait des longueurs, tout ça, c'était surtout de prendre des lancers, c'était surtout de manier la rondelle. Alors, mais sais-tu quoi? Avec la formation des Sénateurs, la formation qu'on présente en ce moment, surtout avec cette bonne séquence, si tu veux avoir du temps de glace, tu vas devoir le gagner, ton temps de glace. Et si tu ne gagnes pas, Bien, assurément, il y a quelqu'un d'autre qui va jouer à ta place.
On va reconnaître aussi la vitesse de Joseph à plusieurs occasions qui a des chances de marquer. Alors, chapeau à lui. T'as-tu l'impression que pour une rare fois, les Sénateurs qui jouent avec un certain enjeu, 4 de suite maintenant, t'as encore 2 matchs très prenables. C'est une grosse semaine pour les Sénateurs. Je veux pas dire qu'ils pourraient faire la différence parce qu'on est encore très, très loin d'espérer. Mais reste que, t'as-tu l'impression qu'on nous démontre, pour une rare fois, que l'équipe commence à... OK, on est capable de jouer de cette façon-là, puis de maintenir
ça. On a de la confiance. On commence à avoir une certaine confiance. Si tous les pièces du casse-tête tombent en place, assurément là, qu'on va pouvoir espérer. Et surtout, là, c'est que du côté des Sénateurs, moi, je suis persuadé qu'on n'a pas lancé la serviette non plus à une place en série. C'est pratiquement impossible. Les calculs mathématiques sont très grands pour qu'on puisse avoir une place en série. Mais par contre, on a le droit d'y penser, on a le droit de dire, écoutez, là, pourquoi qu'on se donne pas une chance, qu'on contrôle pas ce qu'on peut contrôler et on verra le résultat à la fin. Ça, quand tu contrôles ce que tu peux contrôler, Nick, c'est pas compliqué, c'est tu dois gagner des matchs. Tu peux pas t'attendre à regarder dans le classement devant toi et de dire, OK, lui devrait perdre ce soir, également, cette équipe-là va perdre, nous, on va gagner, fait qu'on va... Non, tu dois gagner les matchs que tu dois gagner. Tu l'as dit, cette semaine, c'est une semaine très importante parce que les Ducks ont été battus par le Canadien hier, 5-0. C'est une équipe qui va arriver à Ottawa, c'est pas une équipe qui va très bien là, en ce moment. Et ensuite, tu auras les derniers au classement général, les Blackhawks de Chicago samedi. Fait que c'est officiel avec les... Parce que, tu sais, dans tout ça, là, Nicolas, faut pas oublier là que les Sénateurs d'Ottawa en ce moment ne sont pas à la bonne position. Malheureusement, c'est un mauvais début de saison. C'est des choses qu'on n'a peut-être pas bougé assez rapidement, de congédier l'entraîneur. Moi, c'est l'an passé que je l'aurais congédié, moi, l'entraîneur, tout simplement. Mais le fait qu'on n'a pas pris ces décisions-là, parce qu'on ne pouvait pas non plus les prendre, parce que l'équipe n'était pas vendue encore, on n'avait pas le nouveau propriétaire et tout ça, on a attendu. Mais c'est une équipe qui n'est pas supposée d'être à ce rang-là. C'est une équipe qui devrait se battre pour les séries, beaucoup plus talentueuse que beaucoup de formations devant eux. Et maintenant, c'est à le prouver, sans dire qu'on n'a plus de pression. On a quand même une certaine pression parce que tu veux gagner des matchs, mais on doit le faire de la bonne façon. Et jusqu'à présent, avec cette série de 4 victoires, on le fait en ce moment et on pourrait sortir de la fin de semaine avec 6 victoires consécutives, quelque chose qu'on n'a pas vu cette saison encore.
Il s'en va dans les Maritimes pour couvrir les Olympiques. On lui souhaite un bon voyage et on lui reparle la semaine prochaine à la couverture des Sénateurs. Luc Chénier, bon voyage, merci, bonne Saint-Valentin, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Nico, puis soigne ton cœur ce soir.
Salut.
Salut, bye-bye.
Luc Chénier, à qui on dit bye-bye. Au retour de la pause, on s'en va à Toronto pour jaser avec Cindy Caron. Merci d'être les nôtres dans le vestiaire au 94.5 Unique FM. On remercie encore une fois l'ami Luc Chénier. On vous rappelle que vous êtes dans le vestiaire. Merci de vous joindre à nous. Vous pouvez toujours nous rejoindre au 613-697-2292 via texto. Puis également, on est présent sur le Messenger et Tutti Canti. Après avoir parlé avec notre ami Luc Chénier, ça me tente de vous faire entendre ou réentendre ce qu'on entendait après la rencontre de la part de notre ami Thomas Chabot. Réaction évidemment sur cette victoire, on vous le rappelle, de 6-3 face à Columbus. On écoute le 72.
I thought on Brady getting a hat-trick here and kind of just the love he kind of felt from the crowd tonight.
Yeah, no, it's awesome. I mean, he's obviously he's been the rock here for us and obviously he's always the one that needs to face every noise, whether they're good or bad, and obviously to see him have a good game like that and carry the load for us, I mean, every guy's happy for him.
Ridley also got a really big ovation. Yeah. First time he touched the puck tonight. Yeah. What was the feeling amongst the players when that happened?
I think it's just awesome to see. Obviously, we all know the history behind the rivalry, Toronto and Ottawa, and to see the fans being on his side and supporting him, I think everybody really enjoyed that.
Au retour de la pause, on revient sur le sujet qui revient sur la sellette. Morgan Riley s'en va en appel. Il y a certainement une grande opinion de la part de notre prochain invité. Au retour de la pause, on ira parler avec Cindy Caron du journal L'Express à Toronto. Mesdames, messieurs, merci d'être les nôtres dans le vestiaire jusqu'à 19 au 94.5 Unique FM.
Une bonne nuit de sommeil peut changer votre vie. Ici Valérie Lapensée de Matelas La Pensée. Si vous dormez déjà sur un de nos matelas, merci d'avoir acheté local. Si vous n'avez jamais essayé un Matelas La Pensée, on vous invite à passer nous voir. Nos experts en sommeil vous proposeront des options selon vos besoins et votre budget. Tous nos matelas sont réversibles, durables et fabriqués ici, chez nous. Dormez mieux rapidement grâce à nos options de financement. Trouvez-nous à Gatineau, Orléans et Canada ou au matelaslapensee.ca. Bonne nuit, belle vie.
Si tu es victime, survivante ou témoin de violence, tu n'es pas seule. Femme Aide est là pour toi. Femme Aide est un service de soutien pour les femmes francophones de l'Ontario. Le service est disponible par téléphone, clavardage et texte au 1-877-336-2433. Une intervenante sera prête à recevoir ton appel et à te soutenir, quelle que soit l'heure. Visitez femmeaide.ca pour plus de détails. Femme Aide, toujours à l'écoute.
Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
Yeah. Salut, ici Thomas Chabot, des sénateurs d'Ottawa. Vous êtes dans le vestiaire 94.5 Unique FM. When it all goes down,
I'ma run this town. De retour à l'émission, vous écoutez dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5 Unique FM. Merci de nous écouter également sur l'application mobile et sur le uniquefm.ca. Vous pouvez le faire en différé, Spotify et sur Apple Podcast. On va parler encore une fois des Maple Leafs et de Morgan Riley qui, rappelons-le, s'en va en appel. Pas meilleure personne pour en jaser et analyser du point de vue torontois, notre ami Cindy Caron du Journal Express. Cindy, mes hommages, bon mercredi et surtout bonne Saint-Valentin.
Salut, merci, bonne Saint-Valentin, toi aussi.
Ta réaction à voir Morgan Riley aller en appel, torpinouche, je m'excuse, mais ce qu'il a commis est une bourde et on ne devrait même pas essayer de défendre cette affaire-là. Et pourtant, ta réaction, surprise ou pas?
Pas tant, non, pour la décision d'aller en appel. Je dirais que si la suspension, la durée du 5 matchs, surprise juste un petit peu, mais en même temps, comme tu dis, ce qu'il a fait, c'est une bourde, il n'aurait pas dû. Puis on passe à autre chose. Je pense pas que ça avantage personne de continuer à ce gros débat-là, à jaser de ça, puis là, ça va se continuer avec l'appel et tout. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu dommage tout ça. C'est plate parce que c'est pas dans la nature de Morgan Riley, ce genre de geste-là, mais ça enlève pas le fait que ça a été fait, puis c'était assez idiot, merci. Là. Donc c'est ça, l'appel ne surprend pas tant que ça. C'est pas la première fois que les Leafs font appel comme ça pour des suspensions. Il l'avait fait pour celle de Jason Spezza aussi il y a quelques années. Donc ça reste à voir, mais j'ai pas l'impression que le résultat va changer nécessairement.
Ça me griffe un peu ou ça me graphique un peu, par exemple, quand j'entends des commentaires. Puis je comprends qu'il y a certains membres, en fait, tous les membres de l'organisation vont vouloir aller au bat pour défendre évidemment leur point de vue, ouais. Puis surtout leurs joueurs. Mais d'entendre Sheldon Keefe qui nous dit que parce qu'on est à Toronto, on est sous la loupe, et encore une fois, on nous regarde d'une façon différente en voyant Ryan Reeves. Avec ses déclarations qui datent des hommes des cavernes. Je rappelais hier à notre reportage, je disais, tu parles d'un gars qui a joué à peine 26 games, qui est en train de disparaître dans le style de jeu qu'il fait, puis lui demande tout simplement de défendre ce qu'il est, mais qu'il ne sera plus dans pas grand temps. T'es pas un peu surprise ou peut-être même déçu d'entendre un joueur de nos jours parler de même?
Tout à fait. Commentaire pas nécessaire de la part de Reeves. Surtout pour ce qu'il amène pas, en fait, depuis son arrivée à Toronto. Il est très grand parleur, petit faiseur. On l'avait vu quand Legren avait été blessé. Il parlait à Brad Marchand, mais il a rien fait. Puis finalement, d'aller dire « faut rendre le hockey plus violent, make hockey violent again ». Et d'un, comme tu dis, ça fait homme des cavernes. Ça fait très slogan de Trump aussi. C'est juste un commentaire pas nécessaire. Puis considérant qu'il y a zéro impact depuis son arrivée à Toronto, c'est un gars qui a de la misère à être dans l'alignement, qui fait rien, qui aide pas l'équipe. Présentement, il est dans les rumeurs de transactions. On parle que les Leafs essaient de s'en débarrasser. Donc, il a raté une belle occasion de la fermer, en fait.
Oui, c'est dommage. Puis si je vais plus loin, parce que le débat va... Pas un débat, mais ce sujet-là va continuer à enflammer, je pense, certains débats parce que dans le hockey de nos jours, on veut passer à autre chose. Puis,
ouais.
En prenant cette décision-là, pour moi, c'est on a tapé sur les doigts de Morgan Riley. Je comprends que c'est pas un récidivisme et tout ça,
mm-hmm.
mais il me semble qu'on a raté une occasion d'envoyer un message clair. Puis malheureusement encore, j'ai l'impression que la Ligue nationale de hockey qui nous a appris à prendre des apprises historiquement à prendre des décisions comme ça reste entre l'arbre et l'écorce puis veut pas se prononcer ou se mouiller le gros orteil là-dedans. T'as pas l'impression que c'est ça?
Un petit peu, ben moi je pensais qu'il allait faire un exemple de Riley.
Et voilà.
Avec une suspension plus grosse, même si je pense pas nécessairement que c'était justifié, mon opinion à moi, mais j'ai l'impression que finalement, ils ont peut-être changé d'idée en cours de route avec toute la couverture médiatique des derniers jours là-dessus. Ça a comme fait une grosse tempête pareil comme situation. Puis en bout de ligne, c'est un gars qui a lancé dans un filet désert, puis l'autre gars ne l'a pas pris. Je sais pas. C'est comme je pense qu'ils ont juste changé d'idée un petit peu. Oui, peut-être que l'aspect Toronto a fait une différence sur les réactions des médias, mais... Je sais pas. Dans le fond, toi, tu penses qu'il aurait dû avoir 10, finalement?
Ben, au moins, oui, oui.
Ouais, ouais.
Puis je trouve ça un peu bizarre. J'en parlais tantôt avec Luc Chénier. Je trouve ça bizarre parce que, d'un sens, c'est que t'as un conflit d'intérêts. L'association des joueurs qui va au bat pour Riley pour défendre sa cause en appel doit aussi défendre le gars qui s'est fait asséner un coup de bâton dans le front.
Ouais.
Puis c'est quoi qu'on essaye de... Puis comment on gère ça à l'interne? Moi, il me semble que l'association des joueurs doit dire, OK, Morgan, je comprends là, que t'es en maudit, puis on va essayer de te défendre. Mais d'un autre côté, l'association des joueurs doit envoyer un message également à travers ses membres pour dire, hey, les boys, come on, là. On gagne toute notre pitance, c'est là.
Ouais, c'est juste, c'est pas égal, ces décisions-là. Puis moi, j'en viens surtout au coup de Trouba sur Frederick,
oui?
qui avait fait l'espèce de gros coup, quasiment un coup de hache dans le cou, puis qui avait eu 5 000 $. C'est pas. Disons que c'est pas très stable leur décision au département de la sécurité des joueurs, mais oui, il aurait pu faire un exemple de Riley facilement, c'est sûr. Puis oui, ça, on va en entendre parler de ces choses-là, c'est sûr.
Puis c'est une des raisons pourquoi justement on voit l'association comme une association, comme un syndicat faible, parce qu'on dirait qu'il y a tellement de guerre intestine qu'on n'est pas capable de prendre une décision unilatérale, au moins majoritairement, mais bref, ça c'est une autre affaire. Mais reste que sur la glace, hier, c'était pas évident, parce que le club se défendait avec 3 de ses piliers, Riley, Tavares et Marner. En raison d'une grippe, c'est tout ça? Il n'y a rien de grave à ce niveau-là, rien de sérieux?
Non, c'est juste une grippe qui circule dans le vestiaire. Là, il y a Nylander aussi qui était absent aujourd'hui, plus de Tavares et Marner.
Pour moi, ils sont allés fêter le Super Bowl ensemble, eux autres, puis ils ont échangé une coupe de microbes. Ça se peut-tu, ça?
Qui sait?
mais rien de grave, mais c'est quand même un fait d'âme parce qu'il y a un gars qui était supposé de jouer sa galerie de presse, puis finalement, on l'appelle McCann, qui a décidé, lui, de dire, hey, m'en prendre ma chance. C'est 3 buts quand même pour un joueur de soutien. C'est une belle histoire, cette affaire-là. Là.
Absolument. Bobby McMahon, depuis l'an passé, depuis qu'il a signé avec les Marlies, c'est le genre de joueur que c'est le fun à suivre parce qu'il a 27 ans, jamais été repêché nulle part, il travaille fort, il essaye de faire sa place. Puis à chaque fois qu'on lui donne l'opportunité, il fait quand même très bien. Avec les Marlies, c'était 1 point par match la saison passée. Puis là, lui, il a juste saisi l'opportunité hier. Comme tu dis, il n'était pas certain de jouer. Puis finalement, il a été appelé. Puis le troisième but, c'était un but un petit peu drôle qui, normalement, n'aurait peut-être pas rentré. Mais tant mieux pour lui. C'est une belle histoire. C'est le fun pour les coéquipiers. Puis les Leafs ont grandement besoin d'être dans le bottom six présentement. Secondary scoring, c'est quelque chose et c'est un problème. Donc, si c'est McMahon qui décide de prendre les sauges en charge pour un match, ben tant mieux.
Ben, c'était ma sous-question, ça. Est-ce que de le voir marqué comme ça, c'est un bon signe pour voir que finalement, l'équipe va pouvoir compter sur du soutien offensif de la part des joueurs de profondeur? Est-ce que c'est un signe ou c'est peut-être...
Ben, c'est sûr que c'est prometteur. Je dirais que pour McMahon, ça ne surprend pas personne tant que ça, du moins pas personne qui couvre les Leafs. C'est le genre de joueur qui a toujours montré des flashs de qu'est-ce qu'il pouvait faire, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'opportunités, pas beaucoup de temps en glace. Donc, hier soir, il a juste saisi l'opportunité. Mais oui, c'est prometteur pour le reste. Ça a donné un petit boost à tout le monde, je te dirais, dans l'alignement. Puis on a la ligne Bertuzzi, Domi et Robertson qui n'ont pas marqué hier. Il y avait de la misère à acheter un but. Mais ils ont créé tellement de belles chances de marquer. Il y avait une belle chimie. Il y avait un momentum beaucoup. Donc, c'est quand même prometteur considérant tous les joueurs manquants. Puis, juste pour revenir vite sur Riley, les Leafs sont toujours bons quand il n'est pas dans l'alignement. Oui, c'est un petit peu spécial, mais l'an passé, il a manqué, il avait manqué 17 matchs, je pense, puis il en a manqué 15, puis ils en ont gagné 12 des 15. Un petit peu le même principe quand Matthews n'est pas là. On dirait qu'il y a beaucoup de joueurs qui step up dans ce genre d'occasion-là. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Puis ça donne la chance de voir d'autres joueurs, puis de mettre des joueurs en valeur aussi.
Je comprends là, que dans ces deux matchs précédents, il y avait eu des pourcentages de moins de 900, mais Samsonov à 933, 923 dans le match, dans la tranche de 5, là, il y en a eu 3 sur 2. Sur 5, pardon, où il était au-dessus de 900. Mm-hmm. À 933, c'est excellent. Est-ce qu'on sent que Samsonov s'est redressé, puis là, maintenant, on parle d'un gars stable?
On n'est pas rendu là nécessairement. C'est sûr que ça regarde bien. Dans les derniers matchs, il a bien fait, mais une fois de temps en temps, on voit il glisse toujours trop loin du filet. Mm-hmm. Il a tendance à patauger un peu une fois de temps en temps, puis il glisse beaucoup, puis quand on voit ça, c'est quand il commence à perdre son focus un peu. On avait vu ça beaucoup avant qu'il prenne son petit congé. Donc, c'est sûr que ça, des fois, je pense que c'est contre Dallas, il y avait des petits moments un petit peu où c'était comme ça, mais en général, il a l'air beaucoup plus confiant, même dans ses commentaires aussi, très sûr de lui, puis... plus en contrôle qu'il était, c'est
ça. Il n'y a pas longtemps, on parlait des Leafs à domicile qui n'avaient que 2 victoires à leurs 8 dernières rencontres. On sent qu'avec une performance comme celle-là, en tout cas, j'imagine qu'on enlève certaines doses d'inquiétude, mais tu la vois-tu jouer différemment à domicile avec cette performance contre les Blues?
C'est sûr que personne qui s'attendait à ce genre de match-là hier, tout le monde a bien joué. C'était probablement une des meilleures performances d'équipe de la saison. Mais je pense qu'il y avait une espèce de peut-être moins de pression un petit peu dans les circonstances avec tous les joueurs manquants, l'incertitude de la journée qui va jouer, qui ne jouera pas. J'ai l'impression que les Leafs se sont juste amenés comme on va faire de notre mieux, puis on va se tenir, puis on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai pas nécessairement l'impression que ça garantit la suite à domicile tant que ça.
Il n'y a rien de garanti dans ce bon monde, ça c'est sûr et certain. Vous affrontez la prochaine rencontre, les Flyers de Philadelphie, 4 victoires de suite. C'est quand même à prendre au sérieux. C'est une équipe surprenante, les Flyers de Philadelphie, cette année.
Oui, vraiment, personne ne pensait qu'ils seraient en position où ils sont présentement. Puis oui, ça va être un défi pour les Leafs. Les Flyers, ensuite, ils ont les Ducks qui en arrachent beaucoup, mais ça ne veut rien dire quand une équipe qui en arrache s'amène contre les Leafs. Puis ensuite, les Blues aussi. Donc, ça sera pas des matchs nécessairement faciles pour les Leafs les 3 prochains, mais ça va être un bon défi. Puis, encore une fois, ça va permettre des petits ajustements d'alignement puis de mettre des joueurs en valeur.
Dernier point avant de te laisser. Hier, les Sénateurs jouaient contre les Blue Jackets de Columbus. Parmi les absents, Patrick Laine, qui fait appel maintenant au programme d'aide aux joueurs. Je voulais avoir ta perspective là-dessus parce que je me demandais si c'est juste moi, mais as-tu l'impression que de plus en plus de joueurs font appel à ce service-là ou c'est juste quelque chose qui devient de plus en plus dans les nouvelles, quelque chose qui était peut-être sous le radar avant?
J'ai l'impression qu'il y a moins de stigma autour de tout ça. Je ne sais pas si le programme est mieux qu'il l'était. Je sais qu'il y avait eu des commentaires par le passé de certains joueurs qui avaient été dans le programme qui disaient ne pas recommander à certains joueurs d'entrer dans le programme d'assistance. Je ne sais pas s'il y a des changements qui ont été faits à ce niveau-là, mais c'est beaucoup plus normal de parler de ces choses-là maintenant, que ce soit dans les médias ou peu importe. Donc, je pense que c'est beaucoup de positif que les joueurs soient plus gêné de faire appel à ce genre d'outils-là qui est mis à leur disposition. Donc, c'est une bonne chose, c'est juste positif.
Les Flyers demain et ça sera samedi contre les Ducks et les Ducks seront dans la capitale pas plus tard que demain. Faites-vous-en pas, on va les déplumer pour vous autres. Ils sont déjà pas mal déplumés
ça,
en sortant de Montréal. Pas drôle leur affaire. Hey, merci beaucoup, bonne fin de journée, sérieusement, Cindy. Et on invite les gens, évidemment, à te lire dans l'Express. Sinon, bonne Saint-Valentin encore une fois.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Ici Philippe Ryan du bureau de Quarpeters. Selon l'Association canadienne de la santé mentale, jusqu'à 10 % des Canadiens ont des symptômes de dépression saisonnière. Nous offrons des bénéfices aux entreprises et agriculteurs, parmi lesquels d'excellents services pour la santé mentale sont offerts en ce qui a trait à vos assurances et placements. Ça nous ferait plaisir de vous servir chez philryan.ca. Quarpeters, placement, assurance, conseil.
Astronaute,
enseignante,
fermier,
joueur de hockey,
pompier,
acteur,
triste.
Quel que soit le rêve de votre enfant, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est soucieux d'offrir une éducation de haute qualité en français. Le CECCE accueille les élèves de la maternelle à la 12e année dans un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant. Optez pour l'école francophone de premier choix pour votre enfant, c'est lui permettre de faire le saut vers un avenir florissant. Inscrivez votre enfant au écolecatholique.ca/inscription.
Si tu es victime, survivante ou témoin de violence, tu n'es pas seule. Femme Aide est là pour toi. Femme Aide est un service de soutien pour les femmes francophones de l'Ontario. Le service est disponible par téléphone, clavardage et texte au 1-877-336-2433. Une intervenante sera prête à recevoir ton appel et à te soutenir, quelle que soit l'heure. Visitez femmeaide.ca pour plus de détails. Femme Aide, toujours à l'écoute.
Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
Salut tout le monde, ici Jonathan Desnoyers, animateur du Top 10 d'Unique FM. Le samedi midi, je vous invite à venir découvrir nos 10 plus gros coups de cœur musicaux de la semaine. On est chanceux, on a de la très bonne musique franco sur nos ondes et on vous en fait profiter.
Le Top 10 d'Unique FM, chaque samedi à midi au 94.5 Unique FM.
Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
Salut, ici Eric Carlson, you're in the vestiaire.
Vous êtes de retour à l'émission Dans le vestiaire jusqu'à 19h. Vous pouvez nous écouter maintenant en direct 94.5 Unique FM, uniquefm.ca ou l'application. Sinon, en différé, Spotify et Apple Podcast. Parlons un peu d'arts martiaux mix. Il y a eu un Fight Night en fin de semaine dernière. Il y a également le UFC 300 qui retient l'attention parce qu'il n'y a toujours pas de combat principal. Est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus? On va poser la question à Nicolas Monette qu'on va rejoindre à l'instant. Nicolas, bon mercredi, bonne Saint-Valentin. J'espère que ça va bien.
Bonne Saint-Valentin, Nick, ça va très bien, toi?
Ah, ça va super bien, merci. Ça va super bien également pour les UFC. Ça avance tranquillement. Avant de parler du gros 300, on va parler de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, le UFC Fight Night. Quelques résultats, tu vas nous dire que Pfeiffer perd contre Hermansson.
Oui, donc Pfeiffer qui voulait vraiment rentrer dans le top 15 de sa catégorie, et puis a réalisé vite fait qu'il y a une grosse différence entre le top 15 et le top 30 dans la UFC. Hermansson qui a contrôlé vraiment toutes les rondes, à l'exception de la première que Pfeiffer semblait prendre un peu le dessus. Mais sinon, pour les quatre rounds après ça, sur les cinq rounds, c'était tout Hermansson. Pfeiffer est sorti après puis a dit c'est un dur combat, plus qu'il s'attendait. Hermansson qui, souvent regardé pas comme le meilleur quand ça vient dans sa catégorie, c'est un gars vraiment de top 10 à top 15 en catégorie, mais il y a une différence entre le top 15 et le top 30. Hermansson a montré qu'il y a des niveaux aux arts martiaux mix puis que son niveau était plus élevé que Pfeiffer en fin de semaine.
J'ai pas le choix de te poser la question. Puis, gars, écoute, tu me réponds comme tu peux. Là, puis, mais c'est quoi la différence, justement, entre un gars qui est dans le top 30 puis un gars qui passe au top 15?
Je te dirais, c'est... Souvent, on parle de spécialistes par secteur. Il y en a qui sont meilleurs, on va dire, sur les pieds. Il y en a d'autres qui sont meilleurs sur le jiu-jitsu. Mais c'est quand que t'es rendu en top 15, c'est oui, peut-être c'est pas ta force, nécessairement, le jiu-jitsu ou la boxe, mais t'es capable de te débrouiller puis rester avec ceux qui sont des spécialistes. Pfeiffer, on sait que c'est un gars qui veut rester debout, c'est un gars qui veut frapper. Mais Hermansson, qui était capable de contrôler la distance, contrôler le tempo, faire Pfeiffer se battre sur son pied arrière, qui est plus compliqué à faire pour lancer des coups de poing, t'es pas capable loader tes hanches autant. Fait que Hermansson qui a montré qu'il y a des tactiques, je veux pas, il a repéré des séquences de coups. Si tu fais un kick, c'est quoi sa réaction, ça ouvre quoi. C'est toutes des petites choses comme ça, c'est une petite partie d'échec qu'il fait, puis Hermansson qui est sorti vainqueur haut la main.
Très intéressant là-dessus. Le UFC 300 retient l'attention. Je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons. Il n'y a toujours pas de combat principal, mais il y a quand même du nouveau. peut-être de la part d'un journaliste qui a parlé à Dana White, c'est Kevin Hyle qui aurait eu un entretien et d'autres détails là-dessus. Je te laisse nous donner justement les précisions.
Donc, comme je te dis, toujours pas de headline pour UFC 300. C'est un mauvais look pour la UFC. C'est leur grosse, grosse carte. C'est quand même 300. Ça va être la plus grosse carte pour les prochaines années à venir. Puis de pas avoir de headliner à 2 mois de la carte, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent avec la UFC, à moins qu'il y ait une blessure ou quelque chose comme ça. Puis là, ils ont ça de réaménager la carte. Mais Kevin Hyle, comme je te dis, a parlé à Dana White et semblerait-il qu'après la conférence de presse après UFC 298, Dana White aurait des informations sur qui serait le headliner, ou peut-être même s'il y en a un, peut-être qu'on va voir un autre combat se faire pousser à être headliner. C'est quand même 2 mois. Hamza Chimaev, qui est un gars très willing, qui s'est déjà battu sur des timeframes très restreints. Si on suit son début à UFC, il y avait 2 combats en 2 semaines. Puis même lui, il a dit non, c'est trop de dernière minute, j'ai pas l'intérêt à me battre sur cette carte-là. Fait que à voir comment que la UFC va s'en sortir, peut-être c'est des contractuels. Je pense que tout pointe vers un McGregor. Il y a une pancarte, il y a un poster qui est sorti sur les réseaux sociaux justement pour faire la promo de UFC 300. On voit un homme qui tient un drapeau avec UFC 300 sur le dos. Je t'ai envoyé la photo.
Ouais.
Et semble, moi, là, si j'avais un petit brun à mettre, là, je te dirais que ça ressemble pas mal à Conor McGregor de dos. Fait que pour moi, c'est peut-être un petit teaser. Peut-être c'est pour ça aussi que ça a une certaine lenteur à annoncer. On sait que Conor McGregor demande vraiment des grosses sommes d'argent. Et si c'est une fête contre Nate Diaz, on sait que Nate Diaz, il a jamais été facile à négocier avec la UFC dans le passé. Lui aussi va vouloir un gros chèque de paye. Fait que j'aimerais ça voir une annonce en fin de semaine. Je pense que les fans s'attendent à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de fans dans Martial Mix de la UFC qui ont écouté le Super Bowl parce que Dana White, il y avait une rumeur qu'il aurait fait une pub pendant le Super Bowl pour annoncer la headline de UFC 300. Il n'y en a pas eu, fait qu'on a juste à regarder les 49ers perdre. Fait que c'est ça.
Gang de Niners, ouais. Mais au-delà de Diaz, si c'est pas Diaz avec McGregor, je pense que tout le monde voudrait voir ça, ce tome 3-là, mais si c'est pas avec lui, qui serait peut-être les prétendants à un combat pour McGregor?
McGregor, je te dirais, c'est Diaz ou c'est Chandler. Chandler semble vouloir se battre en juillet. Chandler, c'est aussi quelqu'un qui va vouloir prendre un peu plus de temps. C'est peut-être son dernier combat en carrière aussi avec le chèque de paye. Lui aussi, un monsieur plus âgé dans la fin trentaine. Fait que je le sais pas, mais il y a toujours tout le monde willing, mais c'est de voir, c'est de mettre un nom avec McGregor qui retient autant l'attention. Dustin Poirier, il y a un combat planifié, fait que ça, c'est sorti. Justin Gaethje, pareillement. Max Holloway, pareillement. Fait que là, tu sais, tu mets-tu contre un Tony Ferguson, mais qui veut écouter Ferguson contre McGregor? Fait qu'il y a toute cette affaire-là. On pourrait peut-être voir un Kamaru Usman à 170, 185, mais même là, c'est poussé. Fait que...
Puis tu peux pas te permettre d'envoyer un gars qui va servir de chair à canon, là. Pour un retour comme celui-là, ça prend quelqu'un quand même qui peut prétendre battre McGregor, oui. Mais on peut pas placer McGregor juste dans une position gagnante, juste pour le faire revenir, tout simplement. Le gars veut se battre, puis veut avoir un combat d'impact, right?
Nick, j'irais même plus loin que ça. Je pense pas que c'est mettre quelqu'un qui va se faire battre par McGregor, c'est mettre quelqu'un que McGregor peut battre.
Ouais.
McGregor, on l'a vu dans ses derniers combats, il est pas au même niveau qu'il était. Il y a beaucoup de ring rust. On l'a vu avec Dustin Poirier qui a remporté haut la main les 2 fois. Fait que je pense que c'est, on pourrait donner un gars dans le top 5, mais ils vont le manger tout rond. Puis c'est pas un look que la UFC veut. Idéalement, point de vue marketing, tu veux que McGregor gagne. Il n'a pas gagné ses derniers combats. Fait qu'un gars comme Diaz, qui est aussi à la retraite, un combat qui serait peut-être plus émotif, plus le fun pour les fans aussi. Pas juste quelqu'un qui veut rentrer, battre McGregor, puis là, ensuite prétendre au titre. Fait que peut-être un Jorge Masvidal, ça pourrait être un nom qu'on pourrait lancer là-dedans. Mais encore, c'est toutes des spéculations à ce point-ci. Mais tout point que c'est McGregor et Diaz, je pense que c'est pour ça que on n'a pas d'annonce encore là, à cause d'Elix, ces deux messieurs-là. Ça n'a pas été facile dans leurs 2 premiers combats. Fait que j'imagine le 3e, ça va être encore moins facile.
Diaz a commencé à s'entraîner. Il est rendu à 2 paquets au lieu de 3 par jour. Fait que c'est déjà pas pire. On parle de paquets de cigarettes, on s'entend.
Oui.
Si on a toujours le suspense qui demeure pour le 300, il y a le UFC 298. Et là, ça, c'est une carte pactée au coton, comme on dit.
Vogue contre Poirier. Vogue qui va faire un retour à 145 livres après s'avoir battu avec Islam Makhachev à 155. Donc, il va revenir défendre sa ceinture. Poirier, qui est très bon, très complet. On l'a vu avoir des situations très difficiles, notamment à la carte à Londres. Il s'est fait durement sonner. Il est revenu et a gagné le combat. C'est un gars tout comme Vogue, qui ont beaucoup d'ego, beaucoup d'honneur quand ils se battent et veulent sortir sur leur bouclier. Et puis, Vogue, c'est pour moi, c'est le meilleur qu'on a vu à la catégorie de 145 livres, point final. Mais il n'y a pas de favori selon les odds de Vegas pour la fête. Les deux sont pas mal au niveau, là, sont environ moins 100 les deux. Donc, les betteurs, on dirait qu'ils ne savent pas pour qui prendre. Moi, je pense que Vogue, c'est un combattant plus complet, mais il y a toujours le côté de la jeunesse avec Topuria, vouloir prouver quelque chose, lui aussi, qui n'a jamais perdu. Fait qu'à voir si Vogue pourra mettre fin à ça.
Ouais, mais là, tu vas te peinturer dans le coin. Si tu avais à choisir et si toi, tu joues les experts, lequel est ton favori?
Tu prends toujours le champion, Nick. Il y a, si tu es là, il a défendu sa ceinture souvent. Ça veut dire que ses camps d'entraînement sont roulés serrés. Ça veut dire que ses blessures ont été réglées. Topuria rentre, t'as tout le stress de ton camp sur toi. C'est pas une place déjà été. C'est under the bright lights, comme qu'on dit. On l'a vu même avec le Super Bowl. T'sais, dans des situations de même, on voit du monde qui garde leur calme. Puis on en voit d'autres qui croulent un peu sous la pression. Vogue, c'est un gars qui a montré que peu importe, il est rentré sur 2-3 semaines d'avis contre Makhachev, le meilleur, là, de le pound for pound. Puis, tu sais, c'est pas un gars qui a peur, c'est un gars qui va y aller. On l'a vu avec Brian Ortega aussi, qui était dans une guillotine pendant je sais pas comment longtemps. Tout le monde aurait tapé, sauf Vogue qui est resté. Puis là, il toughed it out. Puis, je vois pas comment tu peux battre Vogue ou better contre Vogue.
Ce qu'on soit pas capable de trouver justement un favori, c'est un peu un manque de respect envers le champion, non?
Oui, mais je pense que c'est justement à cause qu'il a perdu deux fois contre Makhachev. Ouais. Mais faut pas oublier que Vogue, il devrait se battre à 135 livres. C'est pas le plus gros des messieurs. Il se bat à 145, c'est un poids plus naturel pour lui. Mais Islam pourrait se battre facilement à 170 puis encore avoir un weight cut assez difficile à faire. Mais je pense que tout ça aussi, c'est un manque de respect envers Vogue. Puis je pense que ça va juste le fueler un peu plus. Il aime beaucoup prouver le monde. On l'a vu avec Makhachev. Le premier combat, tout le monde pensait que ça pourrait se faire démolir. Puis moi, sur plusieurs cartes, le monde l'avait gagné 3-2 sur les rounds. Fait que je pense que Vogue, il va surprendre peut-être des personnes du camp de Topuria pour voir jusqu'à quel point qu'il est vraiment complet, qu'il est capable, on a parlé en début, tu sais, de contrôler les séquences, de voir les openings. Il est très cérébral comme combattant, donc je pense que la ceinture va rester en Australie avec Vogue.
D'autres combats d'intérêt chez les 185 livres, tu me parles de Whittaker contre Costa?
Oui, donc encore dans cette catégorie de 185 livres, très stacké. Donc, Whittaker, donc il va essayer de remporter contre Costa. Costa, qui est un gros bonhomme, pourrait se battre à 205 livres, à voir s'il va faire la coupe de poids. C'est toujours ça qui reste dans le ballon. Donc, à voir à ce niveau-là. Sinon, c'est les 170 livres, Ian Gary contre Jeff Neal. Ian Gary, qui est une belle vague, qui continue à être imbattu dans la UFC. Un beau challenge contre Jeff Neal, donc à voir s'il va être capable de casser le top 7, si on veut. Et ensuite, une autre bataille qui garde vraiment mon attention, c'est Merab contre Henry Cejudo, à 135 livres. C'est la bataille qui vont se battre pour le number one contender. Donc, pour moi, le gagnant de cette bataille-là va se battre contre le gagnant de Chito Vera contre Sean O'Malley pour la ceinture. Merab, qui pour longtemps a été le meilleur dans la catégorie 135 livres, juste derrière son teammate Aljamain Sterling, puis il voulait pas se battre contre le gars dans son camp, sinon ça aurait été un combat qu'on aurait vu s'il était dans des camps séparés. Donc, je pense que c'est le temps que Merab ait sa chance à se battre pour la ceinture. Puis j'invite les gens à le suivre sur les réseaux sociaux. C'est peut-être une des personnes les plus drôles qui a un compte Instagram, Twitter, dans la UFC. C'est ridicule qu'est-ce qu'il poste, c'est très drôle. Puis c'est ça, donc à voir si Henry Cejudo, il est un peu plus vieux, il a été champion olympien, il a gagné dans deux catégories à la UFC, mais je pense que Merab va remporter ce combat.
On s'entend que c'est un investissement quand tu veux payer le combat à la télé, à la carte. Pour le UFC 298, je pose la question, est-ce que ça vaut l'investissement?
Oui, monsieur. Oui, excellent. Oui, oui. Puis souvent, les prelims, puis ça trouve soit sur Sportsnet ou TSN, soit sur UFC.com. Il y a toujours, vous pouvez avoir un avant-goût de voir justement si vous aimez ça. Fait que sans coup, à part coup de câble.
UFC 298, c'est vendu. Nicolas Monette, à qui on souhaite une bonne fin de soirée, une bonne Saint-Valentin, et à mercredi prochain.
Ciao, Monique.
Femme Aide est un service de soutien confidentiel pour les femmes francophones en besoin, disponible 24/7 au 1-877-336-2433. Visitez femmeaide.ca pour plus de détails. Femme Aide, toujours à l'écoute.
De quoi tu parles?
De quoi tu parles?
Ici Marc-Antoine Joly,
mieux connu comme le chum de Céleste Lévy, puis moi c'est Nicolas Monette,
mieux connu comme le gars de Facebook en 2016.
Mais pas le gars qui a gagné le concours LOL, l'autre.
L'autre.
Puis à chaque midi, du lundi au jeudi, on vous réserve une émission sur la francophonie canadienne.
On parle à plein de monde.
De ben des choses.
Puis c'est de ça qu'on parle de...
Salut les gens d'Ottawa et de la région de l'Outaouais. Ici Steven Levac avec The Outlaw.
Émeric Levac.
Et moi, c'est Martin Villeneuve.
Vous écoutez Unique FM 94.5 FM.
Et merci de nous écouter Ton Jukebox Country le vendredi dès 6h le matin.
Salut, c'est Valérie Cormier. Du lundi au jeudi, faites de vos matins un moment unique avec moi dès 5h30. Chaque jour, je vous livre l'essentiel de l'actualité avec le sourire, plusieurs invités et la meilleure musique franco. C'est un rendez-vous au 94.5 Unique FM.
Cette année, on ne peut pas se tromper. La pression va être énorme. Ça doit être l'année où les sénateurs vont aller à l'échelon supérieur.
Giroux, Stutzla, Ketchup, Chabot. 82 matchs de saison régulière des Sénateurs d'Ottawa au 94.5 Unique FM.
Le hockey des Sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre au 94.5 Unique FM.
Ici Maxime Tissot de l'Atlético. Vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
Vous êtes de retour à l'émission sportive par excellence dans la capitale, dans le vestiaire, jusqu'à 19h. D'habitude, on parle beaucoup de soccer avec notre ami Guy Girard, mais on va parler de soccer et d'autres choses encore très intéressantes. Et je pense que ce sera certainement un sujet qui va intéresser toutes les couches de la société. J'en dis pas plus, je lui dis bienvenue. Salut Guy, comment ça va? Bon mercredi.
Hey, ça va bien, Nicolas, à part de ça. Bonne Saint-Valentin, mon chum.
Ben, j'allais te dire, t'es-tu un gars qui célèbre la Saint-Valentin encore?
Ben écoute, sincèrement, Nicolas, est-ce qu'on a le choix? Et je ne répondrai pas de ça sans la présence de mes avocats. Mais ben écoute, oui, c'est important parce que quand tu regardes ton épouse puis tu regardes ce qu'elle a fait, trois beaux enfants, pour être encore là, les uns pour les autres, t'as pas le choix de souligner cette fête-là de manière officielle, mais officieuse, on se doit de souligner cette fête-là à tous les jours.
Oh, c'est bien dit. C'est sagement dit à part de ça. Cupidon
j'espère
est omniprésent.
J'espère qu'ils vont payer le restaurant. J'espère qu'ils vont payer le restaurant.
Je te le souhaite, je te le souhaite. Parlons un peu de soccer parce que la Coupe du Monde 2026 approche. La FIFA qui a fait connaître justement les partages, le calendrier, comment on allait justement là, distribuer les matchs qui seront joués au Mexique, aux États-Unis et au Canada. On a la confirmation maintenant que le Canada présentera 13 matchs. De ces 13 matchs-là, les trois en phase préliminaire du Canada. Il y a un match à Toronto, deux à Vancouver. Un, parle-moi justement de ce partage et de ta réaction. 13 matchs pour le Canada, c'est correct?
Ben écoute, oui. D'autant plus que ce qu'il ne faut pas oublier, Nicolas, c'est que la Coupe du Monde, c'est un événement planétaire. Et quand on parle d'événement planétaire, on parle évidemment de gros dollars, hein, de beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de droits de télévision, d'acheter des droits de télévision un peu partout. À quel endroit est le plus grand volume de téléspectateurs en Amérique du Nord, Amérique du Sud, ben c'est aux États-Unis. Ouais. Donc, la plupart des matchs vont avoir lieu là-bas à cause justement de ce que je viens de te dire. On est 13 matchs ici au Canada. Moi, je trouve ça vraiment bien. Il y en aura un peu plus au Mexique, mais qu'on en ait 6 et 7 du côté de Toronto et de Vancouver. Moi, je pense que le partage est équitable. Écoute, on avait parlé, tu te rappelleras, Nicolas, lorsque le Canada avait posé sa candidature avec les États-Unis et le Mexique pour l'obtention de la Coupe du Monde, on s'était dit ici au Québec, ben, il faut qu'on ait absolument des matchs à Montréal, et etc., etc. Mais c'était pendant la COVID et ça aurait créé vraiment un tollé si le gouvernement québécois avait dit, ben oui, on va appuyer justement la candidature. Il va falloir rénover, comme tu dis si bien, le bol de toilette montréalais, c'est-à-dire le stade de Et vraiment, le timing n'était vraiment pas approprié pour justement poser notre candidature ici au Québec. Toronto l'ont fait avec le Bimofield, et Toronto l'ont fait, et non seulement ils l'ont fait, ils ont évidemment eu l'occasion d'avoir ces 6 matchs-là, mais sans justement l'obtention, et en fait, pas l'obtention, mais d'amener 70 millions dans le budget de la ville de Toronto et le gouvernement aussi ontarien un autre 70 millions. Donc, au bas mot, c'est 140 millions qui seront pompés dans justement ces 6 matchs-là pour, de un, mettre le stade à niveau, un, et de deux aussi, tout l'aspect logistique et sécurité. Est-ce qu'au Québec, on aurait eu les moyens? Probablement que oui, mais regarde, ça amène quand même causer un tollé pour accueillir les Kings de Los Angeles pour 7 millions.
Oui, mais plus près de nous, par exemple, on a un beau stade ici à Ottawa qui ressemble ni plus ni moins à ce qu'on a au BMO Field. Je comprends qu'on a de l'argent pour un événement puis on veut pas partager la tarte. Toronto, Ottawa, c'est dans la même province. Mais je trouve sérieusement qu'on a passé à côté de quelque chose. Je dis pas que... Peut-être qu'il y a des choses que j'échappe là, au niveau technique, mais si on a été capable d'ajouter puis de rendre ça à la saveur ou au standard de la FIFA à Toronto, dans un stade semblable, il me semble qu'on aurait pu faire la même chose ici à Ottawa, non?
Écoute, on a un superbe stade ici au niveau de la TD Place. Ça, c'est sûr, Nicolas. Mais je pense que là où le bas blesse, c'était au niveau de la capacité d'accueillir les spectateurs ici à la place TD. Ce qu'on dit, OK, ce qu'on dit, c'est que je ne connais pas par cœur là ou à un chiffre précis la capacité du BMO Field à Toronto, mais on parle de plus de 30 à 35 000 places disponibles pour accueillir un match de la Coupe du Monde, et ce qu'on n'avait pas ici à la place TD. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on n'a pas posé la candidature. C'est ça, tandis que le stade olympique, bon...
30 291 et 400 pour le BMO Field.
Bon, ben tu vois, c'était un peu ça, puis ici, je pense que c'était 22-25 000 qu'on est au maximum de la capacité. Donc, c'était peut-être un peu ça, la raison pour laquelle on n'a pas posé la candidature. Mais écoute, entre Toronto et Ottawa, pour accueillir un match, sincèrement, Nico, même si j'aurais aimé avoir les matchs ici, Toronto était peut-être un peu plus sexy pour
ça. Ah, ça, c'est sûr et certain.
C'est ça.
La priorité que, passe à la métropole de la province, je la comprends.
Oui, la ville de Lyme, la ville de Lyme.
Ouais, ouais. Le Canada que, qui va affronter un match à Toronto, qui va jouer un match à Toronto et deux autres à Vancouver, question du décalage, tout ça, vois-tu un problème ou c'est vraiment des pécadilles pour toi, là?
Non, c'est pas un problème, Nicolas, parce que les matchs de passe de groupe, là, il y a vraiment un décalage, il y a beaucoup d'espace entre les matchs. On parle de 7 à 10 jours entre les matchs. Donc, au niveau du décalage, là, absolument pas. Lorsqu'on va jouer à Toronto, Nicolas, après ça, ben, ça va te prendre l'avion le lendemain matin, ça presse, on s'en va à Vancouver pour justement, là, parfaire la préparation puis permettre aux joueurs, justement, là, au niveau du décalage, de pouvoir s'adapter. Puis, tu sais, c'est pas un décalage de 6 heures, là, on parle de décalage de 3 heures. Ouais. C'est quand même pas si pire que ça, là. Puis, si les matchs auraient lieu, par exemple, après ça, si on passe la phase de groupe, puis on descend aux États-Unis, ben là, il n'y a pas de décalage, à moins qu'on joue dans l'Ouest américain, on parle encore du même décalage qui est de 3 heures. Donc, le décalage ici n'aura pas gain de cause sur les joueurs et plus sur la performance de ceux-ci.
Hâte de voir la composition des poules avec le tirage au sort, c'est à suivre. Oui. Pour l'instant, on avance bien puis on se prépare pour 2026. L'autre sujet dont tu voulais parler, c'est l'accessibilité au sport. Puis hors d'onde, on parlait du hockey qui, ma foi, pour jouer dans les plus hautes sphères, s'est rendu... onéreux, c'est rendu au point où c'est plus accessible à grand monde. Parle-moi de ton sujet, ce que tu voulais apporter, là.
Ben, en fait, là, OK, de plus en plus, Nicolas, on voit, tu parles de hockey, puis là, ben, on pourrait parler de soccer aussi en même temps, puis de basketball, là. Je trouve que de plus en plus, on se devrait de regarder, puis de copier, je sais pas de copier intégralement, mais de regarder sérieusement le modèle américain du sport amateur, comment ça fonctionne. On n'a qu'à penser qu'au football, par exemple. Au football, Nicolas, tu sais très bien que il n'y a pas de ligue ou très peu de ligues de football civile au Canada, OK? La plupart, justement, des ligues de football sont des ligues, en fait, scolaires. Et, ben, quand tu parles de football scolaire, ben, tu parles de football secondaire, après ça, collégial et après ça, universitaire, tant universitaire canadien qu'universitaire américain. Et tu peux pas devenir un professionnel footballeur si tu passes pas à travers le réseau scolaire. Ce que ça fait, Nicolas, de un, si tu deviens un athlète professionnel, OK, de joueur de football, ben, t'es pas nécessairement, non seulement un joueur de football professionnel, mais aussi maintenant un universitaire, un bachelier. Gradué,
ouais.
Un gradué. Ça devient, tu deviens un étudiant athlète, puis ben, si ça fonctionne pas d'un bord, ça va fonctionner de l'autre bord parce que tu as un papier. Moi, je trouve que c'est un modèle extraordinaire. Du côté du Québec et du Canada, c'est vraiment pas la même affaire. On a qu'à penser qu'au hockey, ben, au hockey, ben, c'est sport civil. Ben, là, ben, tu commences des échelons. T'es, atome, puis oui, bantam, après ça, midget, puis après ça, si ça va bien, ben, t'es, junior majeur. Puis, junior majeur, ben, on le sait, ben, si t'es chanceux parce que t'as fini ton stage, tu vas peut-être avoir un diplôme d'études collégiales. Sinon, ben, t'as de la misère à finir ton secondaire, malheureusement. Puis si junior majeur, ben, ça s'arrête là, tu te ramasses avec absolument rien. Ce que ça coûte pour les parents de, justement, de conduire un jeune jusqu'au stage, si tu veux, junior majeur, ça coûte une fortune. Média 3A, ça aurait l'air, selon les derniers chiffres, là, entre 10 et 15 000 $ pour les parents par année pour faire jouer son joueur, son enfant, Média 3A. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que ce sont les meilleurs talents qui sont là ou est le talent et le portefeuille du parent qui permet aux joueurs justement de jouer?
Ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que au hockey junior, c'est pas l'an passé où on parlait là, de la Greater Toronto Area Hockey League, là, GTAHL, quelque chose comme ça, où il y avait des parents fortunés qui s'appropriaient la licence d'une équipe qui appartenait à un individu qui lui louait tout simplement le club. Et là, ben, le parent fortuné amenait ceux qui amenaient puis formaient leur petite gang à eux autres. Puis ça, c'est une façon vraiment tordue de faire accéder aux plus hauts échelons des joueurs qui, comme tu l'as dit, c'est pas nécessairement les plus talentueux, mais ceux qui ont la plus grosse poche ou les plus gros contrats ou les plus gros contacts.
Ah, oui. Tout à fait, Nicolas. Oui. Puis donc, là, on parle de midget, on parle de junior, là. Mais écoute, à partir de Pee Wee, par exemple, là, c'est des tournois, 2, 3, 4 tournois durant l'année à travers le Québec. Écoute, il y a des parents, et je le sais, là, je le sais parce que j'en connais, là, qui, lorsque le joueur commence à avoir un peu de talent, les parents négocient des marges de crédit hypothécaire pour permettre de jouer et de jouer partout dans les tournois. C'est-à-dire quoi? L'essence, l'hôtel, les restaurants, la pâte de patate à 300-400$, non, OK, à 200$, et ça ne finit plus. Ça ne finit plus.
Tu dis les patins à 300-400$, c'est des cheap maintenant, ça. Là, c'est rendu à 1000$ pour avoir des patins. Ah. Et là, juste en guillemets, là, des patins dignes de mention. Parce que tous les enfants maintenant veulent avoir ce que les pros ont. Tu parles d'un bâton à 200$, ça, c'est le prix il n'y a pas longtemps. Je suis rendu que je paye 400$ pour un maudit bâton de hockey. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça m'écœure carrément. Puis je m'arrête sur le hockey parce qu'on a rendu ça tellement inaccessible qu'il n'y a pas si longtemps, dans notre temps, nous autres, Guy, le sport des pauvres, c'était le hockey. Puis les riches jouaient au tennis, puis faisaient du ski, puis en white-don. Là, c'est le contraire maintenant. C'est rendu tellement inaccessible que c'est le sport des riches, le hockey. Point la ligne.
Tout à fait, Nicolas. Et ça, maintenant, le soccer, maintenant, c'était un petit peu ça aussi à l'époque. C'était le sport très, très, très accessible.
Ouais.
Maintenant, tu as des paires de souliers à 300-400$. Et après ça, tu as les. Au niveau du sport civil, le soccer l'été, là, si tu veux faire partie de l'équipe double A ou triple A, pour que tu embarques dans le camp d'hiver de l'association régionale ou bien non du club en particulier, et là, ça finit tout. Puis si le jeune, lui, pendant l'hiver, joue au hockey, qui ne s'en va pas dans le centre de perfectionnement de soccer l'hiver, il ne peut pas être pris l'été. Alors là, on prend le parent et le talent du jeune en otage. Et ça, ça fait extrêmement mal. Ça fait qu'à un moment donné, le jeune, lui, le parent ne peut plus suivre, le lâche d'un côté et lâche de l'autre. Moi, ce que je dis, c'est que regardons vraiment sérieusement si on ne pourrait pas éventuellement regarder du côté du modèle américain, c'est-à-dire que le sport amateur devrait être géré par le sport scolaire. Ce que ça fait dans le sens-là, c'est qu'il y a déjà de la logistique en place, il y a déjà des salariés qui sont déjà en place pour s'occuper justement de ces jeunes-là. Et ce que ça donnerait, c'est qu'éventuellement, ça donnerait une pause aux étudiants athlètes de dire, bien l'été, si je suis un joueur de hockey, je prends une pause de un mois et demi, et je recommence à partir de l'automne dans mon sport scolaire. Et ça serait vraiment beaucoup plus bénéfique de un. On ferait des athlètes, justement, de ces étudiants-là, des joueurs reposés, des joueurs, j'ai envie de dire, plus équilibrés en même temps, et on aurait hâte de recommencer notre sport. Puis je pense qu'à la fin de la journée, on aurait des étudiants qui seraient beaucoup plus performants sur le terrain. J'ai envie de te dire aussi plus performants sur les bancs d'école.
Je comprends qu'en ce moment, il semble y avoir une guerre de tranchées entre un groupe ou des groupes qui tentent de faire changer les choses et de l'autre côté, des personnes qui sont à la tête de structures qui ne veulent pas que ça change, évidemment, parce qu'ils sont bâtis quand même certains empires, sans vouloir aller trop loin là-dedans. D'après toi, l'inertie, parce qu'on peut parler quand même d'inertie, se passe-t-elle au niveau gouvernemental ou c'est sur le terrain que ça va se régler?
Ben écoute, moi je pense que ça se passe au niveau gouvernemental parce qu'on sait très très bien, Nicolas, que à travers les associations régionales, à travers les clubs, il y a des salariés, il y a beaucoup d'argent qui se passe là. Donc moi je pense qu'il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là. Si on parle de soccer par exemple, Nicolas, moi je pense que il y aurait probablement, s'il y aurait quelque chose à faire, ça devrait venir des clubs professionnels comme exemple CF Montréal, Toronto, les Whitecaps de Vancouver, voilà, OK.
Ouais.
Nous autres, là, on veut vraiment que les jeunes qui arrivent dans notre structure soient instruits, soient scolarisés, puis qu'ils n'arrivent pas dans nos camps d'entraînement brûlés. Hey, exemple, Nicolas, exemple. Le sport universitaire, OK? Là, le jeune, OK, arrive, je vais te compter comment ça marche, là, qui arrive au mois de milieu ou première semaine, deuxième semaine de août, là, un entraînement, par exemple, de l'UQTR des pattes ou des carabins ou du rouge et or. Et là, il embarque dans la structure universitaire pour la session d'automne. Okay? On parle d'à peu près 12 matchs. Okay? L'étudiant, lui, qui arrive là, il est athlète, il est étudiant, il va y avoir, pour les plus talentueux, 100% de la bourse d'études. Ça, il ne coûtera pas une scène. D'habitude, c'est 3-4 boursiers full. Après ça, 75%, 50%, 25%. Donc là, le jeune s'en vient, il y a une partie de ses études de payer, il joue au soccer. Une fois que la saison est terminée, début novembre, okay? Là, il y a un repos d'environ peut-être 3 semaines, un mois et demi. Après ça, c'est la saison d'hiver à l'intérieur des stades d'hiver universitaires. Une fois que c'est terminé, pendant les fins de semaine, il y a des jeunes qui s'en vont jouer à PNSQ. Donc, ils s'en vont la fin de semaine dans leur ville, comme exemple, Blainville, Laval, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, etc., etc., etc. Et là, ils arrivent à l'été, et là, ils jouent tout l'été dans la Ligue civile PNSQ. Là, on parle, encore une fois, d'une quinzaine de matchs. Rendu au mois d'août, à ce moment-là, puis la saison n'est pas terminée, la PNSQ. Là, l'équipe universitaire le rappelle, « Hey, tu t'en viens, ça presse. Ouais, mais ma saison n'est pas finie. Ouais, tu veux pas venir? Excellent. Reste là, continue à jouer universitaire, puis, pas universitaire, mais en PNSQ civil, on coupe ta bourse. » Le jeune, il fait quoi, lui? Là, il est pris entre les deux jambes, et retourne universitaire, et ça continue comme ça, comme ça. Le jeune, ni plus ni moins, va jouer à environ 11 mois et demi par année sans repos. Puis s'il est blessé, universitaire, sa bourse est coupée. Terminé, bonsoir. Est-ce que ça a du bon sens, Nicolas? Ça n'a aucun sens. Ce que, normalement, l'université devrait dire, c'est que je t'ai pris, moi, je jette tout mon dévolu sur ton talent, autant sur le terrain que comme étudiant athlète. Je t'ai pris, tu dois me garantir que cet été, tu ne joues pas.
C'est...
Et ça, présentement, il n'y a aucune université qui a le courage de faire ça.
Ouais, c'est penser outside of the box en espérant qu'il y a un message qui va se rendre aux bonnes oreilles et qu'on pourra agir à un moment donné. Mais on vient peut-être de refaire le monde à notre façon. On va cesser là-dessus. On verra bien peut-être s'il y aura des changements à un moment donné. Ça n'arrivera pas tout de suite, ça c'est sûr et certain. On se reparle la semaine prochaine en te souhaitant un bon week-end, mon ami, et une bonne Saint-Valentin à lundi.
Pareillement.
Ben, c'est avec Guy Girard qu'on terminait cette émission. Merci d'être là encore une fois dans le vestiaire, diffusé du lundi au jeudi de 17h30 à 19h. On a jasé avec plein de beau monde, en plus de Guy Girard, Nicolas Monette, Cindy Caron et notre ami Luc Chénier. On vous rappelle que Morgan Riley s'en va en appel pour cette décision qui l'a suspendu 5 matchs pour ce coup de bâton ordinaire à Ridley Gregg. Les réactions de tout ça, ben on attendra la décision finale. On vous rappelle que demain, on se reparle en direct du centre Canadian Tire d'Ottawa. Pourquoi? Parce qu'on vous propose un autre match au hockey Heidi Robinson. Cette fois-ci, ce sera Benoît-Olivier Groulx et une certaine formation qui s'appelle les Ducks d'Anaheim. Benoît Groulx, d'ailleurs, qui était à l'entraînement des Sénateurs aujourd'hui. Est-il en train de se magasiner une petite job? Oh! Mystère et boule de gomme. On lui a demandé de lui parler. On pourra voir si on pourra faire ça demain. Entre-temps, ben, on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Bisous à tout le monde, à tous et à toutes. Bonne Saint-Valentin et à demain.